Jeux vidéo, actualité de vos jeux préférés.
Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 avril 2018, vous écoutez Evason Studio et plus précisément une émission qui s'appelle Jeux vidéo et ça parle étrangement de jeux vidéo, oh là là. Je suis Jake et je suis avec Yakipon.
Salut.
Au sommaire de l'actualité des jeux vidéo cette semaine, on va parler de StarCraft avec une news assez étonnante, hein. Il y a quelque chose qui change. Heroes of the Storm, Hollow Knight, Darwin Project, Octopath Traveler, Splatoon 2, Dofus, Kirby Star Allies, et bien, enfin des petites news par-ci par-là, quoi. Voilà, on va parler de petites choses comme ça. Alors, on va commencer par quelques petites news. Notamment, parlons d'un studio indépendant de jeux vidéo qui s'appelle Limited Run. C'est pas des inconnus, tout simplement, parce qu'ils ont développé Mercenary Kings et Flint Hook, notamment. Ce sont deux jeux qui ont fait succès, surtout en dématérialisé, sur Steam et compagnie. Et ce studio de dev, ce qu'ils proposent, c'est de la précommande d'édition physique de leur jeu sur Switch. C'est une précommande uniquement sur leur site à eux. Et pas ailleurs. On le trouvera pas sur Amazon, on le trouvera pas ailleurs pour le moment. C'est une précommande. Donc on peut précommander ces jeux en édition physique jusqu'au 7 mai. Après cette date, normalement on ne pourra plus, sauf s'ils passent un accord avec des géants commerciaux. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc on peut précommander physiquement Flint Hook et Mercenary Kings, tous les deux à 30$, donc 30$ le jeu. Il y a aussi un bundle avec, sur leur site, voilà. Attention aux frais de port. Par contre, on a 15$ de frais de port. C'est un import des États-Unis. Donc, il y a quelques frais. Mais, sincèrement, Flint Hook est un jeu qui est très intéressant. Et je l'attendais en version physique, personnellement. Et Yaki adore ce jeu.
Donc, ouais, Flint Hook, c'est un gros roguelike. Assez technique. Ça, je vous l'accorde. Qui peut devenir très vite difficile. Donc, ouais. Moi, je vous le conseille. La musique est plutôt sympathique. Les objets sont assez variés. Bon, les boss restent un tout petit peu les mêmes, mais c'est difficile, donc c'est cool.
Donc on parle de la Switch, une petite news comme ça, il y a le 16 mars dernier, donc il y a Kirby Star Allies qui est sorti, donc c'est la dernière aventure inédite en tout cas de Kirby. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le jeu, c'est le Kirby le plus vendu de tous les temps en fait. Il aurait généré beaucoup plus de bénéfices durant son premier mois que le Kirby Nightmare in Dream Land. Donc c'est le Kirby qui était avant celui le plus vendu. Donc c'est quelque chose de très bien. Et ce Kirby-là, Star Allies, est bien, il est sympa. Hein. On l'a testé, on y a joué. C'est un Kirby de style plus classique, on n'a pas été surpris en fait. On s'attendait pas à ce qu'il fasse ce record de vente-là. Et en fait c'est ce qu'il fait, donc bah écoute, tant mieux. Hein. C'est ce qu'on peut que leur souhaiter du bien. Et tant qu'on est encore sur la Switch, tu veux nous parler de Octopath Traveler, un jeu qu'on attend avec impatience.
Alors oui, Octopath Traveler, déjà, bon, il faut noter que la démo est déjà en ligne, et qu'on peut déjà tester, on va dire, un petit mode d'histoire, donc c'est assez sympathique, hein, je vous le cache pas. Et donc, juste comme ça, petite info, la démo a été téléchargée quand même à plus de 1,3 million, donc c'est quand même assez fou. C'est, on sent la curiosité des gens, et on sent que ce jeu va faire un carton. Enfin, je l'espère vraiment, parce que déjà, c'est complètement dans le style de jeu que j'apprécie, donc moi très content, hein, moi happy. Mais j'espère vraiment qu'il va pas se casser la gueule, j'espère vraiment que jusqu'au bout, ça va être un truc de dingue et qu'on va vraiment s'amuser. Beaucoup trop de vraiment, je sais, mais j'ai tellement peur que ça se plante ou je sais pas quoi. Bon.
À noter que c'est verra. Square Enix qui est derrière, donc c'est pas n'importe qui. Hein.
Oui, certes, mais bon, Square Enix, parfois, ils ont fait des daubes, hein, mais bon.
C'est sûr.
On rentre pas dans ce sujet-là. À part ce petit chiffre notable, on a enfin deux nouveaux personnages qui ont été dévoilés. Il s'agit de la chasseuse et du voleur. Donc ouais, on a deux nouveaux gameplay, on va dire. C'est-à-dire que la chasseuse pourra faire de la provocation qui pourra lui permettre de prendre le contrôle de différentes bêtes pour les persuader à libérer la voie ou ouvrir de nouvelles routes. Mais aussi, je pense, à l'aider en combat. Donc, sans déconner, bon, bah, ça ouvre, on va dire, une nouvelle perspective au jeu. On avait déjà pas mal de choses de particulier. Je pense surtout à l'apothicaire, qui semble être un personnage assez bizarre, mais on verra ce que ça donne. Et donc le voleur qui pourra donc voler les objets, qui pourra mettre les mains sur des biens non vendus en boutique, évidemment pour se faire un peu de pépette, hein, parce que ben un voleur c'est un peu ce qu'il fait. Il sera très rapide, il va manier évidemment les dagues de base. Donc voilà, deux nouvelles petites histoires qui vont se rajouter. Les designs des personnages sont assez sympas. J'aime beaucoup le style du voleur. Il fait pas du tout voleur, c'est ça qui me plaît. C'est ils se sont dit bon, on va arrêter avec les bandanas, on va arrêter avec un petit peu ce genre de choses parce que bon, c'est mignon 5 secondes. Donc voilà, des petites images, un tout petit peu de nouveautés, c'est très cool. À noter que ce jeu sortira le 13 juillet prochain. J'en ai marre d'attendre, mais bon, c'est comme ça.
Et il sortira en physique. Ça, pour les collectionneurs, pensez-y.
Oui.
Je passe sur un autre jeu qui n'a rien à voir. Un Battle Royale montagneux de Scavenger Studio. C'est Darwin Project, on n'en a pas encore parlé ici. C'est un jeu très bizarre, très particulier, qui fait son petit succès sur les streams. C'est un jeu à 10 participants qui se mettent sur la gueule, en fait, dans une map... avec des zones hexagonales, ils se ferment petit à petit, mais surtout la nouveauté de ce style, de ce Battle Royale, c'est qu'il y a un maître de jeu derrière, incarné par un joueur, qui peut influencer sur le contrôle de la partie avec des événements, qui peut faire influencer via un chat, s'il y a plein de monde qui regarde la partie, avec des votes, dire voilà, qu'est-ce qui va arriver à tel joueur, avec qui, où est-ce qu'on place un bonus sur la map. C'est un Battle Royale vraiment intéressant à voir, plutôt drôle. La news, en fait, parce que oui, la news, c'est pas la présentation du jeu, la news, c'est que ce jeu passe en free-to-play sur PC, donc c'est une bonne nouvelle. Ceux qui avaient acheté le jeu auparavant seront dédommagés en recevant un pack de fondateurs. Voilà, c'est un petit truc qui est en train de se déployer là depuis le 24 avril, donc depuis deux jours au moment où on enregistre cette émission. La seule chose, c'est que la version Xbox One, pour l'instant, reste payante. Le jeu est quand même assez confidentiel. Sur la version Xbox, le jeu se sentit succès. Mais c'est vrai que sur Steam, il a encore un peu de mal à se faire connaître. Et c'est vrai que les Battle Royale, à un moment, ça sort de partout, hein. Fortnite, PUBG, d'autres studios indés qui vont se lancer dedans. On se doute que il y a des gros studios qui vont se lancer dans le Battle Royale dans pas longtemps. On a des grosses conventions qui arrivent, notamment le salon de l'E3, qui va sûrement annoncer des Battle Royale du style Call of Duty ou Battlefield. On le sent venir, gros comme une maison, hein, c'est la maison qui offre. Donc voilà pour parler de Darwin Project, un jeu qui vaut quand même le coup d'œil. Et un autre jeu qui vaut le coup d'œil, on change totalement de style. C'est très particulier, je n'ai pour l'instant jamais vu ça. C'est un jeu qui sort cette semaine là, ça s'appelle To Live. C'est développé par Freaky Creation. Pour avoir un petit anglais. C'est un platformer qui nous place dans la peau d'un jeune homme qui a des troubles mentaux. Donc c'est un adolescent bipolaire. Et on sait que la bipolarité, c'est quelque chose de très difficile à vivre, autant pour la personne que pour son entourage. Donc l'histoire nous parle de Harm, cet adolescent, qui utilise une porte magique qu'il a inventée lui-même pour suivre sa vie plus que sophistiquée dans une grande ville. Et le jeu nous propose de découvrir ce que ça fait d'être dans la peau d'une personne victime de ses troubles mentaux, notamment à un moment très important de la vie du jeune homme, parce qu'il est c'est l'adolescence, du coup il est en conflit avec lui-même, il est en conflit avec le monde, on est tous passés par l'adolescence, et en plus de ça il doit gérer sa bipolarité. C'est très particulier, donc c'est un platformer avec des puzzles à résoudre, dont la difficulté est croissante, forcément. Les environnements, les décors sont dessinés à la main. Chaque monde, chaque section du jeu a son identité propre. C'est le premier jeu de Freaky Creation. C'est un studio équatorien et ça fait 6 ans qu'ils bossent sur ce sujet-là. C'est un jeu qui vaut vraiment le coup d'œil. Il sort sur PS4 là cette semaine. Je vous conseille vraiment, pour ceux qui ont une PS4, de vous plonger là-dedans, ne serait-ce que pour essayer d'être en immersion dans ces troubles mentaux-là, parce que la bipolarité touche beaucoup de monde. C'est très difficile, et il faut pas juger ces gens-là. Il faut vraiment les comprendre et essayer d'anticiper leur saut d'humeur, leur humeur changeante, tout ça, parce que c'est vraiment très très difficile à vivre. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur tout livre. Je reste sur un jeu indé, mais là par contre qui était annoncé sur PC, c'est un jeu dont on entend parler depuis 2 ans à peu près. C'est Fox and Forest. Ça fait 2 ans donc qu'on en entend parler parce qu'ils ont lancé une campagne de financement participatif et on a enfin une date de sortie du jeu officielle. Ce sera le 17 mai. Et le gameplay nous rappelle un petit peu quelque chose parce que ça repose sur le fait de changer de saison pour pouvoir progresser. Donc un renard qui change de saison, ça vous rappelle rien ? Season After Fall. Voilà. Donc on pourra geler de l'eau, on pourra utiliser du vent pour activer des moulins, des plateformes, patati patata. La patte graphique par contre n'est pas là du tout la même que Season After Fall, en même temps c'est pas le même dev. Season After Fall avait quelque chose de très poétique dans son décor, limite dessiné à la main. Là, sur Fox and Forest, on a vraiment sur quelque chose de typé rétro. Voilà pour parler de Fox and Forest. Et je passe la main à Monsieur Yakipon qui nous parle de Hollow Knight.
Oui, alors Hollow Knight, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Vous l'avez vu via les différents streams que j'ai fait dessus. J'espère d'ailleurs que je vais bientôt le reprendre vu qu'il y a un DLC assez complet qui va arriver. Je sais pas trop quand, mais bon, on verra. La mise à jour Lifeblood est officiellement lancée sur Hollow Knight. Alors, qu'est-ce que ça apporte de concret ? Je parle vraiment de concret parce que c'est quand même une grosse mise à jour, mais au niveau gameplay, ça amène un nouveau boss dans la ruche. Donc, quand on a fini le jeu et qu'on retourne le voir, ce coco, ben, on l'explose, hein, le pauvre a fait les frais de mon envie de tuer. Et il y a aussi un boss qui a été refait. Je vous dis pas lequel, comme ça au moins vous aurez un petit peu la surprise pour ceux qui ont envie de refaire le jeu. Surtout si vous l'achetez sur Switch, parce que c'est quand même une mise à jour, je trouve, à mon goût, qui augmente les performances sur la Switch. Voilà. C'est vraiment un équilibrage de performance et tout ça. Après, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Ils ont rajouté de la musique, ils ont rajouté un thème musical, on va dire, un peu plus nouveau. Ils ont rajouté des sons, aussi, qui n'existaient pas sur certains monstres. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'autre ? Ils ont sorti une fonctionnalité où on peut changer le fond d'écran titre du jeu. Je trouve ça assez sympa, vu qu'il y en a qui peuvent se débloquer en fonction de ce que t'as fait dans le jeu. Et puis, il y a certains... on va dire celui de Halloween, du Crimson... j'ai oublié le nom du DLC, mais c'est Crimson, je sais plus quoi... qui était quand même très joli comme fond d'écran, ben je suis quand même content de le retrouver, parce que celui de Lifeblood, à part un truc bleu, bon. Quoi d'autre aussi sur Hollow Knight ? Oui, comme je vous l'ai dit, il y a des DLC qui vont arriver. Un DLC gratuit, je sais pas quand il arrive, et normalement, un DLC un petit peu plus payant, qui sera sur Hornet. Alors c'est vraiment des scies, hein, que je vous dis, c'est vraiment des bruits de couloir, comme on dit. Donc, ne vous y fiez pas trop, de toute façon, on vous en reparlera si quelque chose arrive, hein. Sur ça, pas de souci. Donc, comme tu as dit, je garde la main, Thierry, pour finir un tout petit peu sur la Switch, avec Splatoon 2, évidemment, oui, bon, bah, on a des mises à jour, on va dire, assez souvent, des armes tous les samedis, mais ça, je commence à me répéter, mais là, grosse mise à jour, c'est la mise à jour 3.0.0, qui a été déployée hier. Ça y est, le rang X est arrivé, donc le S+9 commence à, on va dire, devenir désuet. Ils sortent le rang X. Bon, certes, on va dire que ceux qui grattent le ladder petit à petit, bon, ben, seront contents. Les autres qui s'en fichent un petit peu, bon, ben, c'est pas grave, parce qu'ils seront quand même assez contents, les gens qui s'en fichent du ladder, vu qu'il y a 100 nouveaux équipements. Donc ça commence à faire, hein, niveau design du personnage. Une nouvelle carte et aussi un nouveau système de rotation. C'est-à-dire que pour le mode multijoueur, un système de rotation à 8 cartes va être mis en place. Ça commence vraiment à faire, hein, niveau carte, et c'est plutôt cool, vu que comme ça, en fait, on n'est pas cantonné sur 3 cartes. Certes, ça change toutes les 4 heures, si je dis pas de bêtises, mais bon, 8, je trouve ça quand même mieux. Quoi d'autre ? Oui, la map qui sort, c'est l'Hippocamping, quelque chose qu'on avait déjà dans le premier. Une très bonne map, assez sympathique, sur le thème du camping. À noter que la nouvelle rotation des 8 cartes sera quelque chose de mensuel. Donc oui, ça peut être un peu long pour jouer sur la carte que vous voulez, mais je trouve que bouger sur 8 cartes est beaucoup plus, on va dire, équilibré dans le fait que si vous voulez faire un tournoi ou quoi, ben au moins les cartes sont, on va dire, présélectionnées. J'ai d'autres choses à vous dire, parce que j'ai envie de vous parler d'un vieux jeu qui s'appelle Dofus, ou Dofus pour, on va dire, les plus français d'entre nous, mais je crois que même eux, ils disent Dofus. Alors, grosse annonce, c'est-à-dire que le MMO Dofus va ouvrir un nouveau serveur qui est monocompte, si je dis pas de bêtises. Et cette fois-ci, en fait, c'est un serveur qui va être temporel sur plusieurs points, hein, je m'explique. Il sera ouvert du 25 avril au 31 juillet. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ouvrent un serveur sur 2-3 mois? Eh bien, c'est un serveur qui sera vierge. Quand je dis vierge, c'est-à-dire que ça sera le jeu comme on l'a connu il y a moultes années. C'est leur objectif pour ce serveur, est de faire revivre les émotions des premières fois, comme ils disent, j'utilise leurs mots. Donc ça sera vraiment ça sera même pas la première version du jeu, ça va être vraiment le vieux jeu avec, j'espère, les vieux designs, les vieux sorts, les vieilles classes, parce que les dessins étaient, ils étaient fous et ils ont évolué, mais ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce serveur, parce qu'il faut quand même être abonné pour le faire, et puis bon, monter un personnage juste pour le fun et qu'il soit supprimé après 3 mois, bon, on verra, hein, s'il fait un certain carton, j'espère qu'ils vont le laisser, mais j'y crois très peu.
Dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein.
Oui, évidemment, mamie. J'ai envie aussi de vous parler, évidemment, du point Battle.net, hein, c'est le point B, après le point Basilic, le point Battle.net. J'ai 2-3 choses à vous dire sur StarCraft. Alors, StarCraft, je sais pas si j'ai la dent dure envers eux ou pas, mais...
Un peu quand même.
Un petit peu quand même. Ils ont sorti une mise à jour qui s'appelle la 4.3, avec encore un équilibrage des champions en mode coop et évidemment du JCJ, parce que, ben, ils ont fait un équilibrage il y a une semaine, et que, bon, évidemment, il y a des trucs qui étaient être un peu trop fort ou quoi que ce soit. Bref, c'est pas trop ça le sujet de la grosse mise à jour. En fait, la mise à jour va vous offrir 2 nouvelles cartes en mode arcade. Du premier coup, on va se dire « Ouais, chouette !» Et en fait, non, c'est 5€ la map. Sachant que les deux maps... Alors, je vais essayer d'être assez concis et clair. Il y a une map où on fait pop 2 armées, un peu comme dans les jeux où vous dites « Bon, ben, je vais mettre, par exemple, 500 lanciers contre 8 chars, et on va voir qui va gagner. » Vous savez, ce petit genre de jeu avec des moteurs qui peuvent très vite exploser dès que vous dépassez le 10 000 personnages. Eh bien, c'est la même chose. Si vous mettez, par exemple, 8 Dralisk, une Kerrigan, et contre 3 Larak, enfin, je dis des bêtises comme ça, mais c'est un peu le style de jeu. Donc je sais pas trop si ça vaut vraiment 5€, mais bon, c'est pas grave.
Intéressant ce genre de style de jeu, vraiment.
Ben, je pense pas, surtout que c'est un RTS et que, ben... Après, le mode arcade est très libre, hein, ça je le dis pas, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais payer 5€ pour ce genre de map, je suis pas très emballé, on va dire. L'autre map sera un petit mode RPG. Alors ça, par contre, enfin, je dis pas que c'est pas bien, mais... Mettre 5€ pour ce mode-là, je peux le concevoir, vu qu'il y a quand même un gars qui s'est amusé à coder un RPG où on utilise Zeratul, si je dis pas de bêtises. Ça peut être sympa, à voir comment ça se dégoupille avec les nouvelles infos. Mais bon, 5€ la map, on va dire, test d'armée, je l'ai vraiment en travers de la gorge. Je continue sur mon petit point B, avec, évidemment, Heroes of the Storm. Hier soir est sorti Descartes Kane. Bon, je l'avais dit, hein, que ce personnage m'énervait, et que malheureusement, il est drôle à jouer. Je confirme. Il est drôle à jouer, mais le personnage est chiant comme les pierres. Bref, à part ça, il y a eu, évidemment, petit équilibrage, et c'est que du correctif de bug, hein, on va dire, en général, sauf pour Genji. Genji qui a ses dégâts d'attaque augmentés et ses points de vie augmentés parce qu'ils annulent 2-3 choses, c'est-à-dire que tuer un héros adverse récemment touché par la lame du dragon, c'est-à-dire son premier ulti, n'annule plus le temps de recharge de frappe du vent, à part sur le talent niveau 20. C'est de base, ça le fait plus, mais au niveau 20, ça le refait. Donc bon, à vous de voir si vous aimez ce nouveau système. Moi, je m'en fiche un tout petit peu. C'est certes mon ulti préféré, mais généralement, je me démerdais pour faire les dégâts qu'il fallait suite à un contrôle de masse, par exemple Zarya, tout simplement. Voilà, voilà pour le point B.
Eh bien, après le point B, passons au point sortie jeux vidéo de la semaine. On commence. Qu'est-ce qui est sorti ce mardi 24 avril ? Un jeu intéressant sur PC s'appelle Frostpunk. C'est développé par les créateurs de This War of Mine, ça sort sur Steam, et c'est un jeu dans lequel les joueurs évoluent dans un monde glacial dévasté. C'est un jeu de survie où justement la survie est primordiale. Ça se passe dans un univers steampunk où de nombreuses mécaniques sont proposées, comme la faim, la santé physique, la santé mentale, la solitude, la déprime. Ouais, ça a l'air super intéressant dit comme ça, mais en fait non, pour de vrai, le jeu a l'air vraiment vraiment intéressant.
Ce mardi, sur Switch, est sorti South Park, l'Anal du Destin. Celui-là aussi, on vous l'a présenté en stream, mais là, il sera, on va dire, agrémenté de petits DLC, c'est-à-dire la nuit à la Casa Bonita, qui sera également disponible le même jour sur la console de Nintendo. Et on l'a déjà à peu près fait. Donc ouais, le petit jeu sympa du South Park sur la Switch, pourquoi pas, parce qu'en mode portable, ça peut être sympathique.
Toujours ce mardi 24 avril, sur PC et PS4, The Swords of Ditto, un jeu d'action RPG édité par Devolver et développé par un tout petit studio qui s'appelle One Bit Beyond, qui est un petit peu plus connu sur la PS4 déjà. C'est un jeu qui est avec des graphismes très colorés, ça a une patte graphique très particulière, ça rappelle un petit peu Itldew. C'est un jeu qui se présente donc là comme un roguelike, notamment jouable en coop, dans lequel les héros successifs doivent battre un méchant boss qui s'appelle Mormo. Voilà, mais la patte graphique est vraiment très très spéciale, très particulière, très agréable en fait. C'est très bizarre, mais c'est très chatoyant.
Mercredi 25 avril, on vous en avait parlé, Harry Potter Hogwarts Mystery est sorti. C'est un RPG qui prend place dans l'univers donc de Harry Potter, et vous êtes un nouvel élève de Poudlard, et évidemment, vous devez participer à la chasse aux points de maison, à certaines missions, apprendre à faire des sortilèges et des potions. Évidemment, tout ce que vous faites a un impact par rapport à votre maison. Il vous faudra donc battre les autres joueurs pour essayer d'atteindre le sommet. C'est une histoire, on va dire, qui se passe avant Harry Potter. Donc des nouveaux personnages, des professeurs que l'on connaît bien évidemment. Je vous laisse le découvrir, il est pas si mauvais, et voilà.
Jeudi 26 avril, donc aujourd'hui, date d'enregistrement de cette émission, sur PC, Murderous Pursuit. Mon anglais est magnifique. C'est un jeu d'aventure en multi, où un certain Monsieur X nous invite avec 7 autres joueurs à prendre part à un voyage à bord d'un vaisseau qui semble sorti de l'ère victorienne, alors que pourtant la technologie est toute récente. Le but, c'est d'assassiner les autres joueurs présents sans se faire démasquer. Ça peut être très particulier, mais ça peut être super intéressant. Une sorte de loup-garou tierce lieu sans les rôles, tout ça, où il va falloir mener l'enquête. Je pense que c'est un jeu qui a le mérite sur lequel je vais personnellement jeter un coup d'œil.
On croyait que c'était une blague, mais non. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy sort sur Switch. Alors je sais pas, là pour moi je trouve ça juste génial. C'est déjà du Naruto qui était déjà sorti, donc c'est que des... C'est même pas un remake, hein, c'est les jeux qui sont sortis donc avant, qui sortent donc sur Switch. Je sais pas si la Switch est vraiment adéquate pour ce genre de jeu. Bref, c'est la compilation des 3 premiers jeux Naruto, Ultimate Ninja Storm évidemment. Vous y retrouverez tous les plus grands combattants évidemment, hein, de Naruto, en passant par Sasuke et Sakura, hein, on les connaît, les fameux. Voilà, je pensais que la vague Naruto était terminée, bon, tant pis.
Vendredi 27 avril sur Switch, on en avait parlé, il me semble, le Nintendo Labo, avec notamment le pack Toy-Con 1 et Toy-Con 2, c'est un ensemble de mini-jeux. Alors, ça peut paraître débile, bizarre, on en avait déjà parlé, hein, il me semble, c'est que c'est du carton, c'est des kits en carton, littéralement. Mais il y a plusieurs choses, plusieurs interactions avec, ça nous permet de voir la console totalement différemment. et ça permet tellement de choses innovantes en fait. Ça peut permettre à des jeunes ou à des personnes plus âgées de travailler leur motricité, de travailler une façon de réfléchir différemment, de travailler, d'avoir un esprit de développement. C'est débile, hein, et pourtant c'est un truc, je pense, qui peut vraiment faire du bien, qui peut vraiment fonctionner. Et pourtant, c'est du carton. Alors, ça reste encore cher pour du carton, hein, entre 50 et 60 euros. Ils ont beaucoup baissé les prix par rapport à quand ça a été annoncé, mais ça reste encore cher. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, Toycon 1 et 2, Nintendo Labo sur Switch.
On va terminer ces sorties de la semaine avec, évidemment, toujours vendredi 27 avril, Dragodino sur Xbox One et sur Switch. C'est un jeu de plateforme dans lequel notre héros doit parcourir un monde hostile et générer de façon procédurale, donc un petit roguelike, obtenir des pouvoirs en affrontant de nombreux ennemis, et évidemment atteindre le sommet de la tour.
Ben voilà, je pense que nous avons fait le tour de ces actualités du jeu vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour cette émission, et bien sûr sur notre site ivasonstudio.com pour nos autres productions, nos autres petits trucs, voilà, allez jeter un œil, tout ça, des bisous, au revoir.
Ciao.
Écoutez ce programme en podcast sur notre site ivasoundstudio.com.